Une petite méditation. On va essayer de faire petit pour pas prendre trop de temps. Activité des enfants, prédication Eric. La justice, ça se pratique. Vous avez compris que c'était le titre de cette journée, journée du sel. Mais qu'est-ce que la justice ? Il paraît qu'il suffit de rester un petit peu de temps dans un groupe d'enfants ou dans une école ou dans une cour de récréation pour entendre cette petite phrase « c'est pas juste ». Bon, il y a Calimero qui dit « c'est trop injuste », mais les enfants disent souvent « c'est pas juste ». Et c'est un cri qui sort de beaucoup de bouches, de ceux qui sont en particulier dans la pauvreté. Et il y a toutes sortes de pauvretés, et on dit c'est pas juste pour beaucoup de choses. Pourquoi n'ai-je pas les moyens de subvenir à mes besoins? C'est pas juste d'être dans la pauvreté matérielle. Pourquoi suis-je seul et abandonné? C'est pas juste d'être dans la pauvreté relationnelle. Pourquoi suis-je si mal en moi-même? C'est pas juste d'être dans une pauvreté existentielle de l'existence. Et pourquoi suis-je sans espérance? C'est pas juste d'être dans une pauvreté spirituelle. Il y a un théologien anglican, N.T. Wright, qui a dit « Il y a un cri pour la justice qui sort de notre cœur ». Et donc c'est le sel qui me suggère cette citation. Et j'ai justement le livre de N.T. Wright, tout simplement. Je vous le recommande. C'est un super livre et je vous le recommande chaleureusement, fraternellement. Et lui, il parle de sa définition de la justice, c'est remettre les choses en ordre. Remettre les choses d'aplomb. Et je trouvais pas mal. Et tout son premier chapitre, il ne parle que de la justice, de ce cri qui sort de nombreuses bouches pour la justice. Il parle d'une voix qui réclame la justice en nous, ou l'écho même d'une voix, d'un rêve de justice. On a tous envie de justice, et ça nous amène peut-être, ou certainement même, à Dieu, ce besoin de justice. C'est pas juste, dit-on. Et de quelle justice parle-t-on alors? Est-ce de la justice pénale, celle des juges et des avocats qui est fondée sur la loi? Est-ce que c'est la justice sociale, cette quête d'égalité de droit qui sépare le monde entre victimes et coupables? Est-ce que c'est la justice populaire, celle qui nourrit les révoltes, les putschs, qui renverse les pouvoirs abusifs? Est-ce que c'est la justice morale idéalisée dans notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité? Alors, ce sont de bonnes définitions de la justice et on peut puiser pour notre pratique de la justice dans ces différentes justices-là, mais il n'est rien dit là au sujet de la justice divine. Qu'est-ce que la justice pour Dieu? Eh bien, il y a un verset du Deutéronome qui le dit bien. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous les commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Être juste, c'est obéir aux commandements de Dieu. Et Jésus a fait un parfait résumé de ce que pouvait être, de ce qu'étaient les commandements de Dieu. Le premier commandement, aimer Dieu de tout son être. Et puis le deuxième commandement, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la Bible, il y a un appel à la justice qui est de suivre le commandement d'amour de Dieu et du prochain. Alors, comment pratiquer? On a déjà parlé, mais on donne quelques points. Demandez le programme de la pratique de la justice. Premièrement, en partageant. Ézéchiel, on a déjà cité le texte, il n'exploite personne, le juste n'exploite personne, il restitue son gage à celui qui lui a emprunté de l'argent, il ne commet pas de vol, il donne son pain à celui qui a faim et des vêtements à celui qui n'en a pas. Il partage. Et on a un bon exemple de cette atmosphère de partage avec la première église de Jérusalem dans le livre des Actes, au chapitre 2. La première organisation de cette église est celle du partage des repas, des biens, en fonction des besoins de chacun. Il y a là, et on voit dans cette première église, le commencement de la pratique de la justice interne à l'église pour rééquilibrer par le partage la répartition des ressources. Ici, ce n'est pas le montant ou le bien qui est important, mais la réalisation sincère du commandement d'aimer son prochain honnêtement et sans tricher. Certains vont tricher, Ananias et Saphira vont tricher, mais nous sommes rattachés les uns aux autres dans une dépendance voulue par Dieu, tant sur les plans matériels, relationnels que spirituels. Et ce qui est vrai pour l'Église est vrai aussi pour notre action dans le monde, où ce qui est vrai dans l'Église, le partage, l'égalité, l'équité, doit nous pousser à ce que ça soit réalisé dans le monde. Moi, j'aime bien le mot « laboratoire » pour l'Église. L'Église est un laboratoire d'amour où on s'exerce à l'amour pour pouvoir l'exporter à l'extérieur. Et l'Église est un laboratoire de justice pour que nous puissions aussi l'exporter à l'extérieur, dans le monde dans lequel nous vivons. Deuxième pratique de la justice, en partageant et en posant des limites. Alors ça paraît étonnant, mais une des manières de pratiquer la justice, c'est véritablement de poser des limites. Limite à l'endettement, par exemple, dans sa durée, limite à l'intéressement, limite à la propriété, limite à l'esclavage. Il y a dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome et du Lévitique, des chapitres consacrés à l'année du Jubilé. C'est la septième année. Et la septième année, c'était une loi de l'Éternel où on demandait le repos de la terre, la remise des dettes, la libération des esclaves, la répartition, et il y avait comme une répartition ou une redistribution des richesses et des terres. L'année du jubilé, tous les sept ans. Alors on ne sait pas si ça a été vraiment appliqué, mais en tout cas c'était une loi de l'Éternel pour se limiter. Et ce jubilé, ces lois du jubilé, nous rappellent qu'aucun droit n'est absolu, que l'autre, au-delà de ce qu'il me doit, est un être humain comme moi. Poser ses limites, c'est effectivement renoncer à l'absolu de mes droits, du droit au remboursement des dettes que l'autre a envers moi, c'est un acte de justice. Et le sel se mobilise contre ce qu'il appelle les fonds vautours, vous savez, les vautours, les charognards, avec des intérêts, c'est des prêts avec des intérêts exorbitants qui empêchent le développement des pays les plus pauvres. Et le sel ne fait qu'appliquer cette exigence de limite, savoir se limiter, symbolisé par le jubilé. C'est une façon de pratiquer la justice, savoir limiter. Alors, troisième point que l'on peut... j'avais noté là, tous les sept ans, vous remettrez les dettes. Si l'un des compatriotes tombe dans la pauvreté, tu ne lui fermeras pas ton cœur. Au contraire, tu lui ouvriras la main toute grande. J'aime beaucoup ce verset. À Orléans, dans l'église libre d'Orléans, on avait appelé notre association culturelle, donc sociale et missionnaire, ouvrir sa main. Ça venait de Deutéronome 15. Comment pratiquer la justice en étant vulnérable? Parce que si pratiquer la justice, c'est partager, alors il faut accepter que cela nous rende un petit peu, on va dire, vulnérable ou inconfortable, et on peut légitimement dire, en écho avec Lévitique 25, donc qui parle du jubilé, il y en a un qui se pose la question, que mangerons-nous la septième année? Puisque elle est en... la terre est au repos, puisque nous n'aurons ni semé, ni rentrée de récolte. Qu'est-ce que je vais devenir si je commence à partager mes biens? Il y a la peur de l'avenir. Et donc, le peuple de Dieu dit son inquiétude, et nous disons peut-être aussi notre inquiétude, parfois, quand nous partageons. Mais là où les sociétés occidentales répondent par des dispositifs sociaux, qui ne sont pas mauvais en soi, Dieu, lui, se pose en réponse, « Je répandrai ma bénédiction sur vous. » Il nous appelle à la confiance en lui. Sachez que la sixième année, je répandrai ma bénédiction sur vous en vous assurant une récolte suffisante pour 3 ans. Ben oui, si on laisse une année en repos et on sème la deuxième, on ne récolte que la troisième. Donc il faut pour 3 ans la bénédiction de Dieu qui repose sur nous. La pratique de la justice est intimement liée à la relation que nous avons à Dieu, à la confiance que nous lui faisons, à la mobilisation de cette foi qui nous donne. Et on a un exemple avec Mama Hélène. Mama Hélène à Kinshasa, qui décide d'accueillir des enfants en difficulté dans les rues, comme un peu Mouna et Charles. Et puis après, des filles prostituées. Et elle a ça sur le cœur. C'est l'esprit qui lui dit qu'il faut qu'elle fasse ça. Et en 2003, elle quitte son travail et elle sait pas de quoi sa vie va quoi il va advenir de sa vie, mais elle se lance, et elle se lance à plein temps et fonde l'association, je lis, Banaya Kivuvu, partenaire du CEL. Et aujourd'hui, elle compte 40 collaborateurs à Kinshasa, et ils ont suivi des centaines de personnes, des centaines d'enfants depuis 2003. Mama Hélène a fait confiance à Dieu, et elle a avancé dans la foi. Elle a choisi d'être un moment vulnérable et inconfortable. La troisième, pratiquer la justice, ou la quatrième, en dénonçant l'injustice, quand le droit des plus pauvres est bafoué, quand les veuves sont opprimées, quand le migrant n'est pas accueilli, quand la vie n'est pas respectée, l'exigence de justice doit aboutir à la défense des personnes subissant des actes et des situations injustes. Jésus a dénoncé les scribes violents et abuseurs. Amos a dénoncé l'oppression de la maison d'Israël. La pratique de la justice est donc une lutte aussi, un combat contre l'injustice, par la prière, par l'engagement, par l'accueil. Moi, j'aime beaucoup aussi ce texte de Proverbe 31. « Ouvre la bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre la bouche. » Dis quelque chose. Bats-toi pour le muet, pour ceux qui n'ont pas droit à la parole. Ouvre la bouche, juge avec justice et défends la cause du pauvre et du déshérité. Défends la cause. Vas-y, rentre dedans. Moi, j'aimais bien Kouchner à l'époque, j'ai toujours des références du XXe siècle, hein, mais qui pouvait piquer des colères. À l'écran, les médias, ils ne parlaient pas du droit d'ingérence, mais même du devoir d'ingérence quand il était question de pauvreté et d'injustice. Et ils savaient se mettre en colère. Et vous savez, dans la Bible, dans Éphésiens 4, on a ce texte, on traduit souvent « si vous vous mettez en colère ». Mais en fait, on pourrait traduire, et certains le font, « mettez-vous en colère ». Mais que la colère ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais mettez-vous en colère parce qu'il y a des colères saines et sainte, devant l'injustice en particulier. Et moi, je me dis que parfois, je manque de colère par rapport à ce qui se passe autour de moi. Ah ouais, je ne l'ai pas mis. Le micro-cravate, il faut que je mette l'interrupteur. Donc, vous ne m'entendiez pas, en fait. Bon, je recommence. Kouchner, la colère contre l'injustice, défendre l'injustice, parler au nom de ceux qui ne le peuvent pas. Et puis aussi en donnant à chacun une place. Il y a eu un mandat créationnel de la part de Dieu que l'on retrouve dans Genèse. Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Et donc Dieu institue un cadre de responsabilité commun à l'humanité. Et il pose de fait la question d'une organisation de la société où chacun peut vivre et trouver sa place et contribuer à la gestion de la terre qui nous a été confiée. Et la terre a été donnée aux humains dans leur ensemble, pas à une minorité qui s'approprie la part de la majorité restante. J'ai lu justement une statistique terrible, c'est qu'il y a 1% de la population mondiale qui détient 50% des richesses mondiales. C'est incroyable. Alors dans les 1%, c'est 47 millions de millionnaires en dollars. Donc 1% qui détient les 50% de la richesse mondiale. Et donc pratiquer la justice, c'est d'agir au sein de nos sociétés pour une meilleure répartition des richesses et des rôles, à chacun sa place, en donnant à chacun une place. Alors on pratiquer la justice, c'est encourager la solidarité, c'est soutenir des lois qui protègent les plus faibles, des lois plus équitables, c'est trouver des moyens et des systèmes pour réduire les inégalités trop criantes, c'est protéger la création et ceux qui l'habitent, c'est pratiquer la justice, renforcer les capacités des plus pauvres, c'est aussi pratiquer la justice. Et le CEL organise aussi des formations pour des personnes dans les pays les plus pauvres, des formations professionnelles, et lui donne un équipement de départ pour que la personne aidée puisse se lancer ou lancer une petite entreprise. Et donc le CEL agit en renforçant les capacités professionnelles des gens et en créant un espace d'opportunité qui fait terriblement défaut aux plus pauvres. Donc pratiquer la justice, c'est plein de choses. Et c'est aussi s'opposer au mal. Il y a ce mandat créationnel où chacun devrait trouver sa place dans cette société, dans cette organisation mondiale du monde par rapport à la terre que Dieu nous... Mais ce mandat a été torpillé par le mal. Et donc pratiquer la justice, c'est lutter contre ce mal, le péché, contre ceux qui pratiquent le mal, contre ceux qui pratiquent l'injustice. Donc, c'est aussi une lutte. Et c'est aussi, et avant tout peut-être, et je vais terminer par ça, un programme d'amour. Jésus nous appelle à aimer notre prochain, et il nous appelle, et j'ai bien aimé, c'était suggéré aussi par le seul, ce fait qu'il nous appelle à aimer comme les prophètes ont aimé Israël. Alors on a lu dans le guide de lecture de la Bible dernièrement Jérémie, et on a vu que le rôle d'un prophète c'était pas très facile, et c'est vrai que les prophètes, mais pourtant Jérémie aimait son peuple, et donc il y avait un amour prophétique, et l'amour prophétique c'est de dénoncer l'injustice, justement dénoncer le mal, appeler à la repentance le peuple, implorer la miséricorde de Dieu et exhorter chacun à suivre ses commandements. Et on pourrait parler de l'amour prophétique comme étant en anglais un tough love, un amour sévère, comment on traduirait tough. Hein? Non, je me tourne vers Yvonne, elle me dit non, je ne traduis pas, je suis en congé. voilà, mais un amour, j'allais dire viril, mais par les temps qui courent, c'est pas un mot fantastique, mais un amour qui bouge, qui remue. Et l'amour que Christ nous demande, c'est un amour prophétique, un amour qui dit la vérité avec grâce, mais qui dit la vérité, un amour qui démasque le mal. Et qui offre aussi la rencontre avec Dieu, un amour prophétique. Et pratiquer la justice, c'est pratiquer un amour prophétique. Et c'est cet amour qui animait Desmond Tutu. Vous avez déjà à votre gauche, là, en archevêque anglican d'Afrique du Sud, qui a lancé en plein apartheid le mouvement de la commission Vérité et Réconciliation, et qui a fait un travail remarquable. N.T. Wright l'appelle un passionné de justice, fidèle à Jésus-Christ. Tout le monde pensait que l'Afrique du Sud, avec cet apartheid, allait être le lieu d'énormes violences, le sang allait couler, et grâce à Desmond Tutu et sa commission Vérité et Réconciliation, les choses se sont pas trop mal passées. Et Desmond Tutu a eu une position très très délicate, il était haï des deux côtés, des Africains, mais aussi des Noirs qui voulaient la fin de l'apartheid. Mais il a réussi. Un passionné de justice, Desmond Tutu, c'est un gars, et en plus, je pense qu'il avait une super personnalité, je pense qu'il vit toujours. Il est décédé. Il avait une super personnalité, on le voit sur la photo, de l'humour, du rire, enfin, on avait envie de le connaître. Et puis à droite, vous avez la photo de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, vous savez, celui qui défend et tente de mettre fin aux violences sexuelles qui touchent les femmes congolaises. Chrétiens, évangéliques aussi, protestants évangéliques aussi, à fond pour la justice, des exemples pour nous. Et on s'aperçoit que c'est dans le continent africain, c'est chouette, je trouve, de voir ça. Et c'est un bon retour. Un amour prophétique qui se bat pour la justice, qui la dénonce, qui dénonce l'injustice et qui se bat pour la justice. Vraiment, dernier point maintenant, la pratique de la justice et être témoin d'espérance. Vous vous souvenez, on a fait une campagne avec notre union d'église sur l'espérance en octobre, une espérance qui nous transforme. À quoi nous espérons? Qu'est-ce que nous attendons? Et il y a ce texte de Pierre qui nous dit magnifiquement, nous attendons une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera. On attend le paradis. On attend un endroit où toutes les choses seront en ordre, où toutes les choses seront d'aplomb, où il n'y aura plus d'injustice. Un monde où la justice habitera. C'est notre espérance. Mais c'est une espérance qui nous transforme et qui nous transforme dans le présent. Témoin d'espérance, oui, et donc chercheur de justice, puisque notre espérance est un monde où la justice habitera. On est engagé dans cette justice, et j'ai dit chercheur d'espérance parce que je reprends le texte la parole de Jésus dans son sermon sur la montagne, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses pour lesquelles vous vous inquiétez vous seront données par-dessus. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, les deux sont intimement liés. Pratiquer la justice, c'est vivre les réalités du royaume de Dieu ici et maintenant. Et le royaume, pratiquer la justice, c'est le royaume de Dieu qui s'avance dans le temps présent. Et l'Église est une communauté du royaume dans le temps présent. Et l'Église est une ambassade du royaume dans le monde. Et l'Église est un laboratoire où la pratique de la justice annonce la venue du royaume de Dieu. Et nous sommes l'Église. Et nous sommes les individus qui forment l'Église, mais l'Église est plus même que la somme de nos individualités. Oui, la justice annonce, la pratique de la justice annonce la venue du royaume de Dieu. Veux-tu faire partie de cette magnifique mission, de cette magnifique vision du royaume de Dieu où la justice habitera? Oui, je l'espère. Amen.